sera riche avant la fin. Elle est bonne sa mère, toi sur la piste, j'atteins sa mère dans la piste du glisse. Et demain c'est maintenant, il est bientôt 6 du matin.
On est content que tu kiffes la chanson, Claude.
Radio sans nous, radio sans nous, radio sans nous, radio sans nous.
La cloche a sonné, ça signifie.
Vous écoutez Radio sans nous, Radio sans nous, la radio qui émet en direct, mais pas du même salon. C'est une radio qui fonctionne grâce à un salon virtuel. On n'est pas ensemble, mais on essaye de parler ensemble dans vos oreilles.
Mais oui, l'école est finie.
Radio sans nous, une radio créée par des militants et des militantes des CMA Pays de la Loire, qui est ouverte à toutes les personnes qui auraient envie de nous envoyer du son. Vous pouvez nous écrire sur radio.sansnous, S-A-N-S-N-O-U-S, @CEMEA-PDLL comme pays de la Loire.org.
Il y a que des pensées, j'en perds la tête. Mais oui, l'école est finie.
Vous pouvez discuter avec nous sur notre chat, sur chat comme un chat, chat.koumbit.net, sur le canal hashtag Radio sans nous.
On s'amusera. Quoi qu'il advienne, mais oui, l'école est finie.
Retrouvez toutes les informations et les podcasts de Radio Sans Nous sur covid19.cma-pdll.org.
Que la joie vienne,
mais oui,
l'école est finie,
Tous les midis, c'est la criée, on crie et on lit des textes et des petits messages que vous nous auriez envoyés sur le chat ou par mail. Et puis on enchaîne avec un livre humain, une histoire de vie qui nous est contée dans nos oreilles. Et on vous présente un jeu. Tous les soirs à 20h, on vous lit une histoire. Le mardi et le vendredi à 19h, on chante avec vous. Et le jeudi et le dimanche à 16h, c'est la tournée générale. On vous invite à nous écouter pour notre émission généraliste. Et le jeudi soir, tous les jeudis soirs sur Radio Sans Nous, c'est scène ouverte. Bientôt, de nouvelles programmations sur covid19.cema-pdll.org.
Bonsoir, et bien du coup c'est l'émission de mercredi soir, je vais pas la présenter tout de suite des fois qu'il y ait des gens aux fenêtres, et nous le soir on a aussi notre petit rituel de la fenêtre, et du coup le petit rituel qu'on propose il est plutôt de lire ce que les gens projettent, parce qu'il y a des gens qui applaudissent, voilà. Et, mais du coup ça fait débat, et nous on se pose la question, on se pose le débat aussi, et on se dit que applaudir c'est sympa, et c'est bien une dynamique qui a commencé au départ, mais à des moments ça vient nier certaines choses, des choses qui se sont passées avant, de notre place dans le mouvement social avant, ce qu'on veut faire après. Ça catégorise aussi des personnes, et du coup il y a toute une dynamique qui se met en place sur des revendications, des manifestations, des mobilisations par les balcons, et notamment des projections. Et du coup on se propose de lire certaines de ces projections. Alors Facebook c'est un truc, mais bon, il y a un groupe Facebook en tout cas qui s'appelle Projection Covid-19, et du coup là je vais passer le son de ces projections Covid-19 du groupe Facebook, et en même temps je vais les lire. C'est parti. Du fric pour l'hôpital public. Macron, garde tes hommages. On veut du matériel. On veut des vrais salaires. On veut des vraies retraites. Soutien aux soignants-soignantes. Soutien aux soignants-soignantes. soutien aussi à ceux et celles qui bossent. Soutien à ceux et celles qui bossent. Soutien aux postiers. Soutien aux ouvriers. Soutien aux cheminots. Soutien aux éboueurs. Voisin, je vous aime. Mardi 31 mars. Manif de confinement. Le 31 mars. Soutien aux soignants-soignants. Du fric. Du fric pour l'hôpital public. Du fric pour l'hôpital public. Hashtag manif de confinement, le 31 mars à 20h. Allez sur la page Facebook, projection Covid-19.
Tu veux réagir? Tu veux nous dire ce que tu penses de ce qu'on est en train de raconter? Tu veux nous transmettre des messages? Retrouve-nous sur notre chat. Pour ce faire, ouvrez une page internet et entrez dans la barre d'adresse chat.kumbit.net. Attention, j'appelle. Chat comme un chat. C-H-A-T point kumbit kumbit.net N-E-T. À ce moment-là, la page va s'ouvrir et vous demander un pseudo. Ben, vous rentrez le pseudo que vous voulez, puis un canal où nous rejoindre. Ce canal, c'est hashtag, le hashtag c'est le dièse, radio, R-A-D-I-O, sans, S-A-N-S, nous, N-O-U-S, le tout sans espace, radio sans nous, sans espace entre les mots. En bas de votre page internet, vous avez une petite ligne sur laquelle vous pouvez écrire. Vous cliquez sur cette ligne, vous tapez votre texte, vous cliquez sur Entrée et hop, on peut vous lire. Et voilà, vous êtes avec nous.
Radio sans nous, bonsoir. Eh bien oui, il est 20h, 20h08, alors du coup, c'est le moment de se raconter des histoires. Vous avez vu, on a des nouveaux jingles, c'est magnifique, non? D'ailleurs, si vous voulez nous envoyer des jingles, bah, soyez les bienvenus. Si vous voulez nous envoyer du son aussi, soyez les bienvenus. Si vous voulez nous envoyer des choses pour demain ou pour les jours de ceux qui suivent, soyez les bienvenus. radio.sansnous@cma-pdll.org. Alors, ça va commencer. Ce soir, on a 2-3 chansons, Coco et Loco, qui est chantée par Philippe, Selma et Lalo, qui nous l'ont envoyé. Il y a une petite histoire, Mon Bison, qui est lue par Clo. Après, on a Les Archers du Roi comme chanson, qui a été fait il y a 15 jours sur un week-end, là, par une dizaine de personnes. Et ensuite, on a une histoire qui nous a été écrite par Jolane, qui est l'histoire de Julie, qui avait une ombre de garçon. Et après ça, on va avoir une chanson, alors je vais le prononcer avec un magnifique accent, As I Went Done, voilà, c'est dit, c'est fait. Et après, on a Mati qui nous lit Harry Potter, donc c'est un petit rituel depuis hier soir. Dans l'émission d'hier, il y avait le premier chapitre, et ce soir, on est sur le deuxième chapitre. Voilà un peu pour le programme de la soirée. Et ben, je vous souhaite une bonne écoute, et je vous remets un vieux jingle que j'aime bien.
On est là pour quoi ?
Radio sans nous. Radio sans nous. Une radio sans humain, mais pas sans humanité.
Podcast et programme des émissions sur le blog des CMA covid19.cma-pdll.org.
Coco Léoco, à ma coléoco, ah, à ma coléoco, ah, à ma coléoco, Coco Léoco, à ma coléoco, Coco Léoco, à ma coléoco, ah, à ma coléoco, ah, à ma coléoco. Coco Léoco, à ma coléoco, Coco Léoco, à ma coléoco, ah, à ma coléoco, ah, à ma coléoco, Coco Léoco, à ma coléoco, Coco Léoco, à ma coléoco, ah, à ma coléoco, ah,
Mon bisou, un livre de Gaïa Wisniewski aux éditions Mémo. La première fois que je l'ai vu, c'était le printemps. Dans les herbes hautes, je ne voyais pas grand-chose du haut de mes 4 ans. Maman m'a prise dans ses bras et m'a dit « Regarde, il est venu. » Chaque jour, je retournais au même endroit. Chaque jour, je m'approchais, je l'apprivoisais. J'ai été très patiente et un matin, il m'a semblé l'entendre murmurer « Approche !» Je n'étais plus n'importe quel humain à ses yeux. « Mange, c'est bon, c'est moi qui l'ai fait. » Il n'aimait pas toujours mes recettes, mais il me faisait toujours le plaisir d'y goûter. Il est parti un matin de printemps. J'aurais voulu qu'il reste, mais il devait rejoindre les autres bisons. Je fis un long chemin avec lui jusque dans la forêt, et puis vint le moment de nous quitter. Il me regarda longuement. Je reviendrai te voir chaque hiver, quand le sol se couvrira de neige. Comme la clairière me paraissait morne au printemps. Enfin l'hiver, enfin le retour de mon ami. Quand il arrivait, je le savais. Je l'entendais. La terre tremblait un peu. Nous nous installions près du feu, nous nous racontions nos histoires. Dans ses yeux, je pouvais voir tant de tendresse. Je lui racontais mes journées d'aventure passées dans cette forêt chérie. Parfois, il ne disait rien. J'aimais son silence. Ces moments en sa compagnie me réchauffaient. J'aimais écouter le bruit de ses pas dans la neige poudreuse. J'aimais cette goutte gelée au bout de son museau. J'aimais sa respiration. Simplement, je l'aimais tout entier. Les années passaient, on ne se voyait pas vieillir. Nous n'avions jamais froid dans la neige. Une fois, nous avons parlé toute la nuit. Je me souvenais de ma maman. Sa voix s'effaçait, mais son odeur, je m'en souvenais. Mon bison me demandait de lui parler d'elle. Parfois, mes souvenirs sont un peu flous, lui dis-je, mais je me souviens qu'elle me faisait un lait chaud quand je n'arrivais pas à dormir. Elle m'a appris à imiter le chant des oiseaux et aussi à retrouver mon chemin grâce aux étoiles. Elle m'a fait découvrir tant de choses. Et toi, mon bison, te souviens-tu du précieux parfum de ta maman ? Oui, je restais souvent blottie dans sa fourrure, si douce et si chaude. Elle me manque tellement. Et puis, un matin d'hiver, il n'est pas venu. J'ai marché longtemps à sa recherche. En m'éloignant dans la forêt, je redevenais la petite fille au bison. Le lac n'était pas encore gelé, la neige était tombée, et lui, il n'était nulle part. Le soir, je revins épuisé et le cœur lourd. Le ciel scintillait d'étoiles filantes. Il y en avait plus que je n'en avais jamais vu. Mes larmes ont roulé longtemps sur mes joues. Puis, je les sentis à mes côtés. Dans mon cœur, je l'entendais. Je serai dans chaque fleur que tu découvriras au printemps, dans chaque bruit de la forêt, dans la chaleur du feu, dans la caresse du vent, dans chaque flocon qui tombera. Mon bison est-elle là?
Qui c'est qui est très gentil?
Très gentil.
Qui c'est qui est très méchant?
Très méchant.
C'est nous.
Avec les sabots de leurs coursiers, ils sont venus à la maison, ils ont pris les garçons sans demander permission. Je les ai vus courber les chines sous les coups de fouet qui pleuvaient. Cordes d'acier bordées d'épines qui les mordaient les seigneurs.
Ne me demandez pas
de saluer les archers du roi. Non, ne me demandez pas de saluer les archers du roi. Et tout là-haut sur la colline, la potence est dressée pour pendre ce qu'on a condamné. On y accroche au matin le mendiant qui a faim, le bandit de grand chemin. Celle qui dans sa misère voulait maudire le nom du roi, parce qu'elle lui avait pris sa terre, son blé, sa réserve de bois. Non, ne me demandez pas de saluer les archers du roi. Non, ne me demandez pas de saluer les archers du roi. Derrière chez moi, il y avait une fille que j'aimais et qui m'avait donné ses printemps. Mais un jour, on l'a emmenée pour aller assister à la noce d'un archer. J'ai vu des tours tomber la pierre, j'ai entendu les gens hurler. Son coffre est jeté sans prière sur le bas-côté d'un fossé. Non, ne me demandez pas de saluer les archers du roi. Non, ne me demandez pas de les archers du roi.
Et j'ai crié, crié pour qu'elles reviennent.
Vous écoutez une rediffusion de Radio Sans Nom.
Et j'ai crié, crié pour qu'elles reviennent.
Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon. Une ville, une maison, une chambre d'enfant. Maman entre dans la chambre. Dis-moi, ma chérie, tu es bien sûre d'avoir besoin de tes patins pour lire? Tu ne peux vraiment rien faire comme tout le monde?
Je ne suis pas comme tout le monde, maman. Je suis Julie.
Julie n'est pas polie. Elle suce encore son pouce. Julie est très jolie, mais voudrait être rousse. Julie n'est pas très douce. Elle n'aime pas les peignes et se cache sous la mousse pour ne pas qu'on la baigne. Julie sait ce qu'elle veut. Elle en parle à son chat. Ils ont de drôles de jeux que ses parents n'aiment pas. Mais elle voudrait qu'on l'embrasse quand même. Départ en promenade.
Ma parole, tu le fais exprès.
Ma parole,
c'est
tu le fais exprès.
Il est déchiré. D'ailleurs, je vais le jeter. Il est hors de question que je t'emmène dans cette question que je t'emmène dans cette vie.
Ça va mal se terminer.
Tu vas te peigner un peu mieux.
Il est hors de question que je t'emmène dans cette vie.
Là, tu es toute belle, ma chérie. Je te reconnais maintenant. Julie, tu n'as pas vu le rideau que je viens de repasser?
Mais qu'est-ce que tu fais encore dans la salle de bain ? Julie, c'est la dernière fois que je te demande de mettre le couvert, ton père va rentrer. Regarde un peu dans quel état tu t'es mise. Tu ne peux pas faire attention, non ? Cet enfant me rendra folle. Et toi, Michel, dis quelque chose au moins ! C'est vrai, Julie, maman a raison. Tu es insupportable. Toujours à dire de vilains mots, toujours en train de tomber, toujours prête à faire une bêtise. Un vrai garçon manqué, voilà ce que tu es. Julie n'écoute plus. C'est toujours la même chose. Garçon manqué, garçon manqué, garçon manqué, garçon manqué ! Si bien qu'un matin...
Maman, maman, regarde, j'ai une ombre de garçon.
Non, ma puce, tu n'es pas encore bien réveillée, c'est tout. Tu vois bien, il n'y a rien. Je me demande où tu vas chercher des idées pareilles.
Julie n'avait pas rêvé. Elle a bien une ombre de garçon. Mais personne ne veut la croire. Quand une ombre un peu trop sombre vous suit comme votre ombre, nom d'un concombre, elle vous encombre. Julie en a assez. Cette ombre étrange qui tout mélange et la dérange, que le diable la mange. Dialogue avec une ombre qui ne répond pas.
Va-t'en, tu fais peur à mon chat. Et un garçon, c'est même pas comme ça. Allez, laisse-moi tranquille, je ne suis pas comme toi, moi. Je suis une fille. Dis, maman, les ombres, ça mange de la lumière ? Dis, maman, s'il n'y a plus de lumière, ça fera mourir les ombres ?
Jolie Julie, la nuit, de ses yeux grands ouverts, dessine pour demain des matins sans soleil. Mais chaque matin, il fait grand jour. Et dès qu'elle peut être seule avec cette ombre, Julie essaye de s'en débarrasser. Elle patauge longtemps dans les flaques d'eau. Si cette ombre pouvait attraper une bonne bronchite, Julie serait enfin tranquille. Cours, Julie ! Ton ombre est toujours là ! On l'aime bien quand elle n'est pas coiffée comme Julie. On l'aime bien quand elle s'assied mieux que Julie. On l'aime bien quand elle parle moins que Julie. Maintenant, elle ne sait même plus à qui elle ressemble. Même son miroir ne la reconnaît plus. Ce soir, Julie est découragée. Et si c'était l'ombre qui avait raison ? Elle n'est peut-être qu'un garçon, manqué en plus, avec cette fente entre les cuisses qu'elle aime bien toucher doucement. Julie ne sait plus qui elle est, puisqu'elle devrait toujours faire comme quelqu'un d'autre pour être aimée. Julie voudrait être petite, toute petite. Elle voudrait se cacher dans un trou de souris. Sous terre, les souris n'ont pas d'ombre, elles au moins. Tiens, c'est vrai. Sous terre, il fait toujours noir. On n'a pas d'ombre. Le parc.
Qu'est-ce que tu fais dans ce trou ?
Ben, et toi, pourquoi tu pleures ?
Quand j'ai de la peine, je viens ici pour pleurer, sans personne pour se moquer de moi. Tout le monde dit que je pleure comme les filles. D'ailleurs, tout le monde dit que j'ai une tête de fille.
De toute façon, elle n'était pas assez grande, ta pelle.
Bah, et les souris, elles en ont des pelles.
Chut, voilà quelqu'un. Vite, cachons-nous. C'est mes parents,
dit Julie.
Ils ne nous ont pas vus. Et les tiens ?
Oh, les miens, ils dorment toujours.
Tu sais, moi, tout le monde me dit que je suis un vrai garçon manqué. Les gens disent que les filles, ça doit faire comme les filles. Les garçons, ça doit faire comme les garçons. On n'a pas le droit de faire un geste de travers. Tiens, c'est comme si on était chacun dans son bocal.
Comme pour les cornichons ?
Oui, comme pour les cornichons. Les cornifilles dans un bocal, les cornigarçons dans un autre. Et les garfilles, on ne sait pas où les mettre. Moi, je crois qu'on peut être fille et garçon. Les deux à la fois, si on veut. Tant pis pour les étiquettes. On a le droit.
Tu crois ?
Bien sûr qu'on a le droit.
Ils se sont endormis. C'est le matin. Il ne fait pas très chaud. Il fait un peu froid.
Qu'est-ce qu'on fait, Julie ?
Ben, on rentre chez nous.
Oui, mais qu'est-ce qu'on va dire ?
On n'a qu'à dire qu'on s'était perdu, et puis qu'on s'est retrouvé.
Oh, pour sûr, ça va barder à la maison. Mais ce qu'elle a compris cette nuit compte plus que tout. On a le droit, on a le droit, répète Julie en marchant. Il peut tout arriver. Elle est Julie, elle le sait maintenant. Julie Chippy, Julie Fury, Julie Julie.
went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, Moses, let's go down, come on down, don't you wanna go down? Come on, Moses, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way.
Radio Sans Nous, bonsoir, il est bientôt 20h30, on arrive à la fin de cette première partie de soirée du coup où on met des chants et des histoires. Alors on rappelle que les chants et les histoires, bah, c'est nous qui les avons enregistrés, c'est nous et vous qui les avez lus et qu'on vous appelle à enregistrer, à lire d'autres histoires et à nous les envoyer sur radio.sansnous@cma-pdll.org. pour qu'on puisse continuer à se lire des histoires comme ça tous les soirs pendant le confinement et peut-être même après. On rappelle aussi que pour celles et ceux qui aiment bien chanter, on fait deux soirées dans la semaine où du coup on chante en direct, c'est pas des enregistrements. Et du coup ces soirées, c'est les mardis et les vendredis soirs. Voilà. Du coup bah là ça va continuer avec une autre chanson qu'on avait chantée il y a 15 jours et enregistrée. Et derrière, on va avoir le chapitre 2. De Harry Potter qui nous est lu par Mati et après ça sera le temps de se dire au revoir et à demain. Voilà, bonne soirée à vous et bienvenue à Émérance et à ma maman.
C'est pour quand même faire un cercle parce que après nous on récupère un
livre
pour nous.
Oh wow,
ensemble,
wow.
L'organisation spatiale cohérence, mon Dieu.
Réalisation spatiale cohérente.
Ce soir je meurs à la guerre. Aujourd'hui pour moi sonne le glas. Mon visage est blanc et mon sang coule à flot sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bombes. Pourtant, je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville sur le trottoir de la rue des Lilas.
je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas, la rue des Jamais, regarde la dune, au matin, quand s'effacent mes larmes, jamais plus les cimes, et la neige éternelle, et l'oiseau bleu, brillant de mille éclats. Plus de jamais revoir la lune, plus dans la nuit qui éclaire mes pas. Plus jamais plus la mer, les étoiles, les forêts et ce lac bleu perdu au fond des bois. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. J'aimerais tant revoir mes frères, mes enfants, mes parents, mes amis, danser la date, pour leur pousser la mort, trinquer la rac jusqu'au bout de la vie. Je dirais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour bercer mon départ jusqu'à l'autre bord, dire aux faiseurs de mort que l'on survit. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas.
Car la guerre, c'est un
massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas.
C'est un
massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Je m'éteins dans la rue des Lilas.
Laissez-vous, vous ne pouvez pas rester sur cette zone. Laissez-vous, vous ne pouvez pas rester sur cette zone.
Alors qu'à Paris, les drones parlent aux gens dans la rue, nous, on préfère vous parler en direct sur Radio Sans Nous.
Restez chez vous, vous ne pouvez pas rester sur cette zone. Restez chez vous, vous ne pouvez pas rester sur cette zone.
Chapitre 2. Une vitre disparaît. Il s'était passé près de 10 ans, depuis que les Dursley avaient trouvé au seuil du lit leur neveu devant la porte, mais Private Drive n'avait quasiment pas changé. Ce jour-là, le soleil se leva sur les mêmes petits jardins propres en faisant étinceler la plaque de cuivre qui portait le numéro 4 à l'entrée de la maison des Dursley. La lumière du matin s'infiltra dans un living room exactement semblable, à quelques détails près, à celui où Mr. Dursley avait appris par la télévision le fameux vol de hibou de sinistre mémoire. Seules les photos exhibées sur le manteau de la cheminée donnaient une idée du temps qui s'était écoulé depuis cette date. 10 ans plus tôt, on distinguait sur les nombreux clichés exposés quelque chose qui ressemblait à un gros ballon rose coiffé de bonnets à pompons de différentes couleurs. Mais Dudley Dursley n'était plus un bébé, et à présent, les photos montraient un gros garçon blond sur son premier vélo, sur un manège de fête foraine, devant un ordinateur en compagnie de son père, ou serré dans les bras de sa mère qui le couvrait de baisers. Rien dans la pièce ne laissait deviner qu'un autre petit garçon habitait dans la même maison. Et pourtant, Harry Potter était toujours là, encore endormi pour le moment, mais plus pour longtemps. Car sa tante Pétunia était bien réveillée, et ce fut sa voix perçante qui rompit pour la première fois le silence du matin. « Allez, debout, immédiatement !» Harry se réveilla en sursaut. Sa tante tambourina à la porte. « Vite ! Debout !» hurla-t-elle de sa voix suraiguë. Harry l'entendit s'éloigner vers la cuisine et poser une poêle sur la cuisinière. Il se tourna sur le dos et essaya de se rappeler le rêve qu'il était en train de faire. C'était un beau rêve, avec une moto qui volait, et il eut l'étrange impression d'avoir déjà fait le même rêve auparavant. Sa tante était revenue derrière la porte. « Ça y est, tu es levé ?» demanda-t-elle. « Presque, » répondit Harry. « Allez, dépêche-toi. Je veux que tu surveilles le bacon. Ne le laisse surtout pas brûler. Tout doit être absolument parfait le jour de l'anniversaire de Dudley. » Harry émit un grognement. « Qu'est-ce que tu dis ?» glapit sa tante derrière la porte. « Rien, rien. L'anniversaire de Dudley. Comment avait-il pu l'oublier ?» Harry se glissa lentement hors du lit et chercha ses chaussettes. Il en trouva une paire sous le lit, et après avoir chassé l'araignée qui s'était installée dans l'une d'elles, il les enfila. Harry était habitué aux araignées. Le placard sous l'escalier en était plein. Or, c'était là qu'il dormait. Lorsqu'il eut fini de s'habiller, il sortit dans le couloir et alla dans la cuisine. La table avait presque entièrement disparu sous une montagne de cadeaux. Apparemment, Dudley avait eu le nouvel ordinateur qu'il désirait tant, sans parler de la deuxième télévision et du vélo de course. La raison pour laquelle Dudley voulait un vélo de course restait mystérieuse aux yeux de Harry, car Dudley était très gros et détestait faire du sport. Sauf bien sûr lorsqu'il s'agissait de boxer quelqu'un. Son punching ball préféré, c'était Harry, mais il était rare qu'il parvienne à l'attraper. Même s'il n'en avait pas l'air, Harry était très rapide. Peut-être était-ce parce qu'il vivait dans un placard, en tout cas, Harry avait toujours été petit et maigre pour son âge. Il paraissait d'autant plus petit et maigre qu'il était obligé de porter les vieux vêtements de Dudley qui étaient à peu près 4 fois plus gros que lui. Harry avait un visage mince, des genoux noueux, des cheveux noirs et des yeux d'un vert brillant. Il portait des lunettes rondes qu'il avait fallu rafistoler avec du papier collant, à cause des nombreux coups de poing que Dudley lui avait donnés sur le nez. La seule chose que Harry aimait bien dans son apparence physique, c'était la significatrice qu'il portait sur le front et qui avait la forme d'un éclair. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, il avait toujours eu cette cicatrice, et la première question qu'il se rappela avoir posée à sa tante Pétunia, c'était « Comment lui était-elle venue ?»« Dans l'accident de voiture qui a tué tes parents », avait-elle répondu, « et ne pose pas de questions. » »« Ne pose pas de questions. » C'était la première règle à observer si l'on voulait vivre tranquille avec les Dursley. L'oncle Vernon entra dans la cuisine au moment où Harry retournait les tranches de bacon dans la poêle. « Va te peigner !» aboya Mr. Dursley en guise de bonjour. Une fois par semaine environ, l'oncle Vernon levait les yeux de son journal pour crier haut et fort que Harry avait besoin de se faire couper les cheveux. Harry s'était fait couper les cheveux plus souvent que tous ses camarades de classe réunis, mais on ne voyait pas la différence. Ils continuaient à pousser à leur guise, c'est-à-dire dans tous les sens. Harry était en train de faire cuire les œufs au plat lorsque Dudley arriva dans la cuisine en compagnie de sa mère. Dudley ressemblait beaucoup à l'oncle Vernon. Il avait une grosse figure rose, un cou presque inexistant, de petits yeux bleus humides et d'épais cheveux blonds qui s'étalaient au sommet de sa tête épaisse et grasse. La tante Pétunia disait souvent que Dudley avait l'air d'un chérubin, et Harry disait souvent qu'il avait l'air d'un cochon avec une perruque. Harry essaya de disposer sur la table les assiettes remplies d'œufs au bacon, ce qui n'était pas facile, en raison du peu de place qui restait. Pendant ce temps, Dudley comptait ses cadeaux. Lorsqu'il eut terminé, ses joues s'affaissèrent. « 36 !» dit-il en levant les yeux vers ses parents. « Ça fait 2 de moins que l'année dernière. »« Mon petit chéri, tu n'as pas compté le cadeau de la tante Marge, regarde, il est là, sous ce gros paquet que papa et maman t'ont offert. »« D'accord, ça fait 37 !» dit Dudley qui commençait à devenir tout rouge. Harry, qui sentait venir une de ces grosses colères dont Dudley avait le secret, s'empressa d'engloutir ses œufs au bacon avant que l'idée vienne à son cousin de renverser la table. De toute évidence, la tante Pétunia avait également senti le danger. « Et nous allons encore t'acheter 2 autres cadeaux, » dit-elle précipitamment, « quand nous sortirons tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en dis, mon petit agneau ? 2 autres cadeaux, ça te va ?» Dudley réfléchit un bon moment. Apparemment, c'était un exercice difficile. Enfin, il dit lentement. « Donc, j'en aurai 39, mon canard adoré, » dit la tante Pétunia. « Bon, dans ce cas, ça va. » Dudley se laissa tomber lourdement sur une chaise et attrapa le paquet le plus proche. L'oncle Vernon eut un petit rire. « Le petit bonhomme en veut pour son argent, comme son père. C'est très bien, Dudley, » dit-il en ébouriffant les cheveux de son fils. À ce moment, le téléphone sonna et la tante Pétunia alla répondre pendant que Harry et l'oncle Vernon regardaient Dudley déballer. Le vélo de course, un caméscope, un avion radiocommandé, 16 nouveaux jeux vidéo et un magnétoscope. Il était occupé à déchirer le papier qui enveloppait une montre en or lorsque la tante Pétunia revint dans la cuisine, l'air à la fois furieux et inquiet. « Mauvaise nouvelle, Vernon. Mrs. Fig s'est cassé une jambe. Elle ne pourra pas le prendre, » dit-elle en montrant Harry d'un signe de tête. Horrifié, Dudley en resta bouche bée. Harry, lui, sentit son cœur bondir de joie. Chaque année, le jour de l'anniversaire de Dudley, ses parents l'emmenaient avec un ami dans des parcs d'attractions, au cinéma ou dans des fast-foods où il pouvait se gaver de hamburgers. Et chaque année, on confiait Harry à Mrs. Fig, une vieille folle qui habitait un peu plus loin. Harry détestait aller là-bas. Toute la maison sentait le chou, et Mrs. Fig passait son temps à lui montrer les photos de tous les chats qu'elle avait eus. « C'est malin !» dit la tante Pétunia en jetant un regard furieux à Harry, comme si c'était lui qui était responsable de la situation. Harry savait bien qu'il aurait dû éprouver un peu de compassion pour cette pauvre Mrs. Fig, mais ce n'était pas facile, car il pensait surtout qu'il s'écoulerait encore une année. Une année entière avant qu'il soit obligé de regarder à nouveau les photos de Pompon, Patounet, Misty Gris et Mignonette. « On pourrait peut-être téléphoner à Marge, » suggéra l'oncle Vernon. « Ne dis pas de bêtises, Vernon, tu sais bien qu'elle déteste cet enfant. » Les Dursley parlaient souvent de Harry de cette façon, en faisant comme s'il n'était pas là. Ou plutôt, comme s'il était un être dégoûtant, une sorte de limace incapable de comprendre ce qu'il disait. « Et ton amie, comment s'appelle-t-elle déjà ?»«
Ah oui, Yvonne. »« Elle est en vacances à Majorque, » répliqua sèchement la tante Pétunia.
« Vous n'avez qu'à me laisser ici, » intervint Harry plein d'espoir. Pour une fois, il pourrait regarder ce qu'il voudrait à la télévision, et peut-être même essayer l'ordinateur de Dudley. On aurait dit que la tante Pétunia venait d'avaler un citron entier.
« C'est ça, » grinça-t-elle. « Et quand nous reviendrons, la maison sera en ruine ?»«
Je ne ferai pas sauter la maison, » assura Harry, mais il ne l'écoutait plus.
« Nous pourrions peut-être l'emmener au zoo, » dit la tante Pétunia. « Et le laisser dans la voiture en nous attendant ?»«
La voiture est toute neuve, pas question de le laisser tout seul là-dedans !»
Dudley se mit à pleurer bruyamment. En fait, il ne pleurait pas pour de bon. Il y avait des années qu'il ne versait plus de vraies larmes, mais il savait que dès qu'il commençait à se tordre le visage en gémissant, sa mère était prête à lui accorder tout ce qu'il voulait.
« Mon Dudley de chien adoré, ne pleure pas, maman ne va pas le laisser gâcher ta plus belle journée !»
s'écria Mrs. Dursley en le serrant dans ses bras.
« Je veux pas qu'il vienne !»
hurla Dudley d'une voix secouée de faux sanglots.
« Il gâche toujours tout !»
Dudley adressa alors à Harry un horrible sourire entre les bras de sa mère. Au même moment, la sonnette de la porte d'entrée retentit.
« Oh mon Dieu, les voilà !»
dit précipitamment la tante Pétunia. Un instant plus tard, Pierce Polkiss, le meilleur ami de Dudley, entra dans la maison en compagnie de sa mère. Pierce était un garçon efflanqué avec une tête de rat. Quand Dudley tapait sur quelqu'un, c'était toujours lui qui tenait par derrière les mains de la victime pour l'empêcher de se défendre. Dudley cessa aussitôt sa comédie. Une demi-heure plus tard, Harry, qui n'en croyait pas sa chance, était assis à l'arrière de la voiture des Dursley, en compagnie de Pierce et Dudley. Pour la première fois de sa vie, il allait visiter le zoo. Son oncle et sa tante n'avaient pas trouvé d'autre solution que de l'emmener avec eux, mais avant de partir, l'oncle Vernon avait pris Harry à part.
« Je te préviens !» avait-il dit, sa grosse figure rouge tout contre le visage de Harry. « Je te préviens que s'il se produit la moindre chose bizarre, tu ne sortiras pas de ce placard avant Noël !»«
Je ne ferai rien, » assura Harry. « C'est promis. » Mais l'oncle Vernon ne le croyait pas. Personne ne le croyait jamais. Le problème, c'était qu'il se passait souvent des choses étranges autour de Harry, et les Dursley refusaient de croire qu'il n'y était pour rien. Un jour, la tante Pétunia, fatiguée de voir Harry sortir de chez le coiffeur avec la même tête que s'il n'y était pas allé du tout, avait pris une paire de gros ciseaux et lui avait coupé les cheveux si courts qu'il en était presque devenu chauve. Elle n'avait laissé qu'une frange pour cacher cette horrible cicatrice. Dudley s'était écroulé de rire en voyant le résultat, et Harry n'avait pas pu dormir de la nuit en imaginant ce qui allait se passer le lendemain à l'école, où déjà, on se moquait de ses vêtements trop grands et de ses lunettes au papier collant. Au matin, cependant, il s'était aperçu que ses cheveux avaient repoussé tels qu'ils étaient avant que la tante Pétunia ne les coupe. Il avait été puni d'une semaine de placard sans sortir, malgré tous ses efforts pour essayer de leur faire admettre qu'il ne comprenait pas ce qui avait bien pu se passer. Une autre fois, la tante Pétunia avait voulu le forcer à mettre un vieux pull de Dudley, une horreur marron avec des pompons orange. Mais plus elle essayait de le lui faire passer la tête à l'intérieur du pull, plus celui-ci rapetissait. Finalement, il s'était trouvé réduit à la taille d'un gant de marionnette, et la tante Pétunia avait conclu qu'il avait rétréci au lavage. À son grand soulagement, Harry, cette fois-là, n'avait reçu aucune punition. En revanche, il avait eu de sérieux ennuis à l'école, le jour où on l'avait retrouvé sur le toit de la cantine. La bande de Dudley l'avait poursuivi dans la cour comme à l'accoutumée lorsque, à la grande surprise de tout le monde, y compris de Harry lui-même, il s'était retrouvé assis au sommet de la cheminée. Les Dursley avaient reçu une lettre furieuse de la directrice dans laquelle elle affirmait que Harry s'amusait à escalader les bâtiments de l'école. Pourtant, comme il l'avait expliqué à l'oncle Vernon à travers la porte verrouillée de son placard, il s'était contenté de sauter derrière les poubelles qui se trouvaient à côté de la porte de la cuisine. Harry pensait que c'était le vent qui avait dû l'emporter jusqu'au toit, au moment où il sautait. Mais aujourd'hui, tout irait bien. Cela valait même la peine de supporter Dudley et Pierce, du moment qu'ils pouvaient passer la journée dans un endroit qui ne serait ni l'école, ni le placard, ni le salon à l'odeur de choux de Mrs. Fig. Tandis qu'il conduisait la voiture, l'oncle Vernon se plaignait à la tante Pétunia. Il aimait bien se plaindre de choses et d'autres. Les gens qui travaillaient avec lui, Harry, la municipalité, Harry, son banquier et Harry, constituaient quelques-uns de ses sujets préférés. Ce matin-là, c'était aux motos qu'il en avait. « Conduisent comme des malades, ces petits voyous !» dit-il alors qu'une moto les dépassait. « J'ai rêvé d'une moto cette nuit, » dit Harry qui se souvenait soudain de son rêve. « Elle volait. » L'oncle de Harry faillit percuter la voiture qui le précédait. Il se retourna brusquement, son visage si rouge qu'il ressemblait à une énorme betterave à moustache. « Les motos ne volent pas » hurla-t-il. Dudley et Pierce ricanèrent. « Je le sais bien, » répondit Harry, « ce n'était qu'un rêve. » Mais il regretta d'en avoir trop dit. Plus encore que les questions qu'il posait, les Dursley détestaient l'entendre parler d'objets qui sortaient de leur rôle habituel, que ce soit dans un rêve ou un dessin animé, comme s'ils redoutaient qu'ils n'en tirent des idées saugrenues. C'était un samedi ensoleillé, et le zoo était bondé de familles en promenade. Les Dursley achetèrent à Dudley et à Pierce de grosses glaces au chocolat. Mais avant qu'ils aient eu le temps de repartir, la jeune femme souriante qui vendait les glaces avait demandé à Harry ce qu'il voulait, et ils avaient fini par lui acheter une sucette glacée au citron à bon marché. Elle n'était d'ailleurs pas si mauvaise que ça, pensa Harry, tandis qu'il la léchait devant la cage d'un gorille occupé à se gratter la tête. L'animal ressemblait étrangement à Dudley, sauf qu'il n'était pas blond. Il y avait bien longtemps que Harry n'avait pas passé une matinée aussi agréable. Il prenait la précaution de se tenir un peu à l'écart des Dursley pour éviter que Dudley et Pierce, qui commençaient à se lasser des animaux, ne se consacrent une fois de plus à leur passe-temps favori, lui taper dessus. Ils déjeunèrent au restaurant du zoo, où Dudley fit une grosse colère parce que sa crème glacée aux fruits géantes n'était pas assez grande à son goût. L'oncle Vernon lui en commanda une autre, et Harry fut autorisé à finir la première. Mais Harry aurait dû s'en douter. Tout cela était trop beau pour durer. Après déjeuner, ils allèrent voir les reptiles au vivarium. L'endroit était sombre et frais, avec des cages de verre éclairées qui s'alignaient le long des murs. Derrière les vitres, on voyait toutes sortes de lézards et de serpents qui rampaient et ondulaient sur des morceaux de pierre ou de bois. Dudley et Pierce voulaient voir d'énormes cobras au venin mortel et de gros pitons capables de broyer un homme dans leur étreinte. Dudley ne mit pas longtemps à dénicher le plus grand serpent du vivarium. Il était si long qu'il aurait pu s'enrouler deux fois autour de la voiture de l'oncle Vernon et la réduire en un petit tas de ferraille, mais pour l'instant, il ne semblait pas d'humeur à tenter ce genre d'exploit. En fait, il dormait profondément. Le nez collé contre la vitre, Dudley contemplait les anneaux luisants du reptile. « Fais-le bouger !» dit-il à son père d'une voix géniarde. L'oncle Vernon tapota la vitre, mais le serpent ne bougea pas. « Recommence !» ordonna Dudley. L'oncle Vernon donna de petits coups secs sur la vitre, mais le serpent continua de dormir. « Hum, On s'ennuie ici, marmonna Dudley en s'éloignant d'un pas traînant. Harry s'approcha alors de la cage de verre et contempla le serpent. Il n'aurait pas été surpris que le reptile soit lui-même mort d'ennui à force de rester seul dans cette cage, sans autre compagnie que tous ces imbéciles qui passaient la journée à taper contre la vitre. C'était pire que de coucher dans un placard avec pour toute visite celle de la tante Pétunia qui tambourinait à la porte pour le réveiller. Lui, au moins, il pouvait se déplacer dans la maison. Le serpent ouvrit soudain ses petits yeux brillants. Lentement, très lentement, il leva la tête jusqu'à ce qu'elle soit au même niveau que celle de Harry. Et il lui fit un clin d'œil. Harry resta bouche bée. Il jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne le regardait. Puis il adressa à son tour un clin d'œil au serpent. Le reptile fit un signe de tête en direction de l'oncle Vernon et de Dudley. Puis il leva les yeux au plafond. Il semblait dire à Harry « J'ai droit à ça sans arrêt ». « Je sais, » murmura Harry, sans savoir si le serpent pouvait l'entendre à travers la vitre. « Ça doit être vraiment agaçant. » Le serpent approuva d'un hochement de tête vigoureux. « D'où tu viens, au fait ?» demanda Harry. Le serpent pointa le bout de la queue vers le petit écriteau apposé à côté de la vitre. « Boa constrictor, Brésil, » lut Harry. « C'était bien, là-bas ?» Le boa pointa à nouveau la queue vers l'écriteau et Harry lut la suite. « Né à la ménagerie. » « Ah, d'accord, je comprends. Donc tu n'as jamais été au Brésil ?» Tandis que le serpent confirmait d'un signe de tête, un hurlement assourdissant retentit et les fit sursauter tous les deux. « Dudley, Mr. Dursley, regardez le serpent, vous n'allez pas le croire !» Dudley revint vers la cage en se dandinant aussi vite qu'il le pouvait. « Pousse-toi de là, toi » dit-il en donnant à Harry un coup de poing dans les côtes. Pris par surprise, Harry tomba sur le sol de ciment. Ce qui se passa ensuite fut tellement rapide que personne ne vit comment c'était arrivé. Soudain, alors qu'ils se tenaient côte à côte devant la cage de verre, Pierce et Dudley firent un bond en arrière en poussant des cris d'horreur. Harry se redressa, le souffle coupé. La vitre qui retenait le boa prisonnier avait disparu. Le long serpent se déroula rapidement et quitta sa cage en ondulant sur le sol. Pris de panique, les visiteurs du vivarium se précipitèrent alors vers la sortie en hurlant de terreur. Au moment où le serpent glissa rapidement devant lui, Harry eut l'impression d'entendre une voix basse et sifflante dire « Et maintenant, direction le Brésil. Merci, amigo. » Le gardien du vivarium était en état de choc. « La vitre ? » répétait-il. « Mais où est passée la vitre ?» Le directeur du zoo, en personne, offrit une tasse de thé fort et bien sucré à la tante Pétunia, et se confondit en excuses. Pierce et Dudley balbutiaient d'un air ahuri. D'après ce que Harry avait pu voir, le serpent ne leur avait fait aucun mal. Ils s'étaient contentés de claquer des mâchoires tout près de leurs mollets pour s'amuser à leur faire peur. Mais, quand tout le monde eut repris place dans la voiture de l'oncle Vernon, Dudley raconta que le boa avait failli lui arracher la jambe, tandis que Pierce affirmait qu'il avait essayé de l'étouffer en s'enroulant autour de lui. Mais le pire, pour Harry tout au moins, ce fut lorsque Pierce, qui s'était un peu calmé, dit « Harry, il a parlé au serpent, pas vrai Harry ?» L'oncle Vernon attendit que Pierce fût rentré chez lui pour s'en prendre à Harry. Sa fureur était telle qu'il pouvait à peine parler. Il parvint seulement à dire « Fil, placard, pas bouger, rien à manger !» Puis il s'effondra dans un fauteuil et la tante Pétunia se hâta d'aller lui chercher un grand verre de cognac. Beaucoup plus tard, Harry, allongé dans son placard, se désolait de ne pas avoir de montre. Il n'avait aucune idée de l'heure et il ne savait pas si les Dursley étaient déjà couchés. Tant qu'il ne dormait pas, il ne pouvait pas se risquer dans la cuisine pour aller chercher discrètement quelque chose à manger. Il avait passé 10 ans chez les Dursley, 10 années sinistres, depuis que ses parents étaient morts dans cet accident de voiture alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Il ne se souvenait pas d'avoir été dans la voiture lorsque ses parents avaient été tués. Parfois, seul dans son placard, il fouillait dans ses souvenirs pendant des heures entières et une étrange vision émergeait de sa mémoire. Il revoyait un éclair aveuglant de lumière verte et se souvenait d'une brûlure douloureuse sur le front. C'était sans doute le choc de l'accident, pensait-il, bien qu'il n'eût aucune idée de l'origine de la lumière verte. Il ne se rappelait rien de ses parents. Son oncle et sa tante ne lui en parlaient jamais et, bien entendu, il n'avait pas le droit de poser de questions à leur sujet. Il n'y avait même aucune photo d'eux dans la maison. Lorsqu'il était plus jeune, Harry avait souvent rêvé qu'un parent lointain et inconnu vienne le chercher et l'emmène avec lui, mais cela n'était jamais arrivé. Les Dursley étaient sa seule famille. Parfois, cependant, il lui semblait, ou peut-être était-ce un simple espoir, que des gens qu'il croisait au dehors le reconnaissaient. C'étaient d'ailleurs des gens très étranges. Un jour, un homme minuscule coiffé d'un chapeau haut de forme violet s'était incliné devant lui pendant qu'il faisait des courses avec Dudley et la tante Pétunia. Après lui avoir demandé d'un air furieux s'il connaissait cet homme, la tante Pétunia s'était dépêchée de les faire sortir du magasin sans avoir rien acheté. Un autre jour, dans un bus, une vieille dame échevelée, toute habillée de vert, lui avait fait de grands signes de la main. Récemment encore, un homme chauve dans un long manteau pourpre lui avait serré la main dans la rue, puis était reparti sans dire un mot. Le plus étrange, c'était que tous ces gens semblaient toujours disparaître dès que Harry essayait de les regarder de plus près. À l'école, Harry n'avait pas d'amis. Tout le monde savait que la bande de Dudley détestait Harry Potter, avec ses vêtements trop grands et ses lunettes cassées. Et personne n'avait envie de déplaire à la bande de Dudley.
Radio Sans Nous, c'est la fin de ce programme du soir. Vous pouvez nous retrouver sur Internet. Les podcasts sont sur covid19.cma-pdll.org. On se retrouve demain à 12h30 pour l'émission du midi. Bonne soirée.
Et quelque chose de très très important à se dire, c'est si jamais vous avez des histoires à nous envoyer, des chansons à nous envoyer, et ben n'hésitez pas à radio.sansnous@cemea-pdll.org. Et demain 12h30, comme je viens de dire, il y a l'émission, mais à 16h, on a le programme de la Générale. Voilà, et donc une émission un peu plus fouillée, on va dire. Du coup, et à 20h, on va relire des histoires. Par contre, à 21h, demain soir à 21h, on a une soirée scène ouverte. Alors, une scène ouverte, c'est un peu comme dans les bars, dans les lieux publics. C'est qui veut, vient et propose quelque chose à voir et à entendre aux autres. Bon, on est à la radio, donc le pari, ça va plutôt être quelque chose à entendre aux autres. Mais du coup, ça peut être vous, ça peut être des proches à vous, ça peut être une chanson, ça peut être un tour de magie, ça peut être une performance, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais on vous attend demain soir pour proposer ça et pour s'écouter. Et du coup, on sera là, nous, pour commenter. On sera aussi là avec le chat. Donc n'hésitez pas d'ici demain à aller voir sur le blog des CMA comment ça marche le chat et vous entraîner avant. Et du coup, demain soir, il y a de la chanson, il y a des performances, il y a peut-être des tours de magie. Je crois que même il y a au moins une magicienne qui va faire un tour et d'autres choses. Et du coup, on se retrouve pour ça demain soir à 21h. Donc, trois rendez-vous demain, 12h30 pour le programme du midi, 16h pour l'émission générale, 20h pour les histoires et 21h pour la scène ouverte. Ne pas manquer la scène ouverte. Et tout bientôt, je vous le dis en exclusivité, on va avoir un concert de soutien par les Punk à Chat. Mais ça, on vous en parle plus demain soir après la scène ouverte. Bon, on peut pas se lâcher comme ça. Alors du coup, je vous remets une petite chanson. Une petite prière.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, Won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it.